Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Corinne Hirsch sur Droit Devant. Diplômée de l'Université Paris-Dauphine, Corinne a démarré par des études dans les statistiques avant de s'intéresser au marketing et de rejoindre Yoplait, où elle va être l'une des premières femmes à diriger une zone du grand international. Après cette carrière à l'international, donc, Corinne va finalement choisir de se consacrer à son sujet de prédilection, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas, Corinne est cofondatrice et administratrice du Laboratoire de l'égalité et elle intervient aussi dans de nombreuses associations. Si vous la suivez sur les réseaux sociaux, où elle est très active, vous savez que Corinne intervient régulièrement sur des sujets comme l'impact du genre dans les négociations de salaire, la mixité en entreprise, ou encore les avancées en termes de visibilité des femmes dans les médias. Dans le podcast d'aujourd'hui, Corinne est revenue pour nous sur l'origine de son engagement, qui repose sur une transmission familiale, conjuguée très tôt, à la conscience des inégalités et des injustices qu'elle génère. Dans cet épisode, Corinne donne des conseils concrets aux entreprises qui souhaiteraient mettre en place plus d'égalité dans leur organisation. Elle explique comment sécuriser ses process RH à toutes les étapes, sur le sujet des augmentations, des recrutements, de la formation, l'identification des hauts potentiels, les évolutions de carrière, bref, une mine d'idées précieuses, vous l'aurez compris, pour implanter concrètement plus de mixité dans l'entreprise. Avec Corinne, nous avons aussi parlé d'ambition féminine, puisqu'elle se bat au quotidien pour faire reconnaître que l'ambition professionnelle féminine est une belle valeur qui ne se réalise pas nécessairement au détriment des autres. Corinne revient aussi sur l'index égalité et donne son avis sur cet outil implanté récemment. Enfin, si vous écoutez l'épisode jusqu'au bout, vous verrez que Corinne nous donne les précieuses clés du développement de carrière pour les femmes qu'elle a eu du mal à identifier, mais qu'elle nous livre généreusement dans l'épisode d'aujourd'hui. Merci à Corinne pour cette vision d'une saine ambition féminine et cet échange riche de conseils. Très bonne écoute. Alors bonjour Corinne et bienvenue sur Droit Devant.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Je voulais commencer, si ça te va, et pour que l'on comprenne ton engagement en faveur de l'égalité, par revenir sur ton parcours. Je sais que tu as passé de longues années dans des groupes internationaux. Je me demandais si c'était à cette occasion que tu avais touché du doigt le fameux plafond de verre dont tu as tant parlé ou si cette expérience n'était pour rien dans ton engagement aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton engagement ?
En fait, mon engagement, il vient depuis toute petite. Je pourrais dire que je suis née comme ça, tout simplement par transmission familiale, par une maman, des grands-mères, engagées, impliquées sur le sujet. Mais elles n'étaient pas engagées militantes, mais juste parce qu'elles avaient vécu des injustices qu'elles trouvaient, des inégalités qu'elles trouvaient des injustices. Voilà, et du coup, j'ai été élevée dans le sens de l'importance de l'autonomie et de l'indépendance financière pour les femmes, pour pouvoir vivre sa liberté.
D'accord. Et alors, je sais que tu es très engagée sur le plan associatif, grandes écoles au féminin, Dauphine au féminin, j'en oublie très certainement, et que tu as cofondé le Laboratoire de l'égalité. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le Laboratoire de l'égalité, nous expliquer un petit peu aux auditeurs, aux auditrices, en quoi ça consiste et quel est son rôle justement ?
En fait, justement, comme j'étais impliquée sur ces sujets depuis toute petite, dans les années 2000, lorsque les réseaux sont apparus dans le monde professionnel, je m'y suis naturellement insérée. Et de fil en aiguille, j'ai été happée dans un collectif où on s'est dit « mais c'est quand même fou, l'égalité formelle est là, les lois sont là ». Et pourtant, l'égalité réelle n'avance pas.
Les statistiques ne changent pas, quoi.
Les statistiques ne bougent pas. Mmh. On est vraiment scotché dans ce qu'on appelle la malédiction des 80-20, où en général, les femmes sont plutôt du côté du 20 et les hommes du côté de 80, répartition, pouvoir, etc. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et là, on s'est dit, on va rassembler tous les acteurs et les actrices de l'égalité au travail, de tous les domaines associatifs, entreprises, les élus qui font encore les lois, les partenaires sociaux, qui négocient les accords en entreprise, les chercheurs, les chercheuses, qui nous donnent les statistiques pour faire travailler toute cette connaissance ensemble et élaborer des propositions concrètes à pousser vers les décideurs publics ou privés.
D'accord.
Et on a démarré, on était 5 autour de la table il y a 10 ans, on est aujourd'hui 1500.
D'accord.
Personnalité impliquée sur le sujet.
Et alors moi, ce que j'ai compris, mais arrête-moi si je me trompe, c'est qu'en fait, ce laboratoire de l'égalité était porté autant par les hommes qu'avec les hommes et avec des femmes,
pour les hommes et pour les femmes. C'est ça hein, que tu expliquais, qu'en fait, c'était assez fédérateur, ce projet. C'était pas...
Dès le début, il y a 10 ans, on s'était dit on va se centrer sur l'égalité au travail, qui était déjà un peu nouveau. Et dès le début, on a dit ça sera une structure mixte, plurielle politiquement aussi. C'était très important de mélanger, en fait, toutes les diversités. Et donc, aujourd'hui, on a la fierté d'avoir, allez, on ne va pas dire la parité, mais d'avoir au moins un tiers d'hommes dans nos instances.
D'accord. Et aujourd'hui, tu es aussi à la tête d'un cabinet de conseil qui s'appelle Akesio et qui aide les entreprises à mettre en œuvre leur politique de mixité femmes-hommes, justement. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de terrain et nous dire les freins que toi, tu identifies au quotidien, que te remontent, par exemple, tes clients pour assurer et mettre en place cette fameuse mixité? D'abord, qui t'appelle au quotidien dans le cadre de ce travail de conseil? Quels sont les motifs qui sont derrière la démarche?
Alors, c'est intéressant parce que les appels viennent de plusieurs sources. Ça peut être un réseau de mixité qui a envie de faire avancer davantage le sujet pour de la sensibilisation, ou un réseau de femmes qui a envie d'avancer dans l'empouvoirement de ses membres. Ça peut être des personnes des ressources humaines. Et là, enfin, c'est pas un frein, justement, c'est que une grande majorité, 60-70% des personnes des ressources humaines sont convaincues que le sujet de la mixité est un levier au sein des entreprises, mais la moitié disent « je ne sais pas par où commencer ». Je ne sais pas par où commencer. Donc, il y a cette dimension-là. Ça peut être aussi une direction générale convaincue et qui disent « mais bon, c'est pas possible, là, faut qu'on avance sur le sujet ». Ou inversement, une direction générale pas convaincue, mais qui se retrouve en queue de classement et qui en a assez que ses collègues lui disent « bah alors, qu'est-ce que tu fais? Ton index égalité, il frôle les 75, donc voilà ». Et qui, du coup, appelle ses équipes, soit RH, soit de communication, soit corporate, pour dire « bon, moi, je veux plus être en queue de classement, donc faites quelque chose, faites bouger le sujet ».
En tout cas, il peut y avoir pas forcément un engagement, mais aussi, je ne sais pas, une manière de fidéliser ses talents, de vouloir développer sa marque employeur. Il peut y avoir d'autres motifs qu'une vraie conviction au début, mais quelle que soit la raison qui les amène vers toi, finalement, tu t'empares de ça pour en faire une expérience vertueuse. C'est ça que tu expliques.
Ce qui est important, en fait, c'est que dès qu'il y a un fil à tirer sur le sujet, une envie ou une frustration ou une colère sur le sujet, il faut s'en emparer pour faire avancer. À partir de là, soit on travaille en sensibilisation, soit en formation, soit en conseil. Mais il y a toujours des choses à raconter sur le sujet. Et c'est un sujet de bon sens. Alors, je ne devrais pas dire ça, parce que de l'autre côté, on me présente comme une experte de l'égalité au travail. Mais c'est quand même du bon sens qui peut être motivé soit par une envie d'apporter un monde plus équilibré, plus juste, mais aussi le présenter sous un angle de performance. Alors, le sujet de la performance, certaines disent « oui, mais c'est un sujet de justice, donc pourquoi y mettre de la performance ?» Parce que quand même...
Tout ce qui se mesure s'améliore.
Tout ce qui se mesure s'améliore. On voit quand même des corrélations, pas forcément des causalités, mais des corrélations. On sait que dans les entreprises qui sont davantage mixtes, qui ont davantage de femmes dans leurs instances de direction, les indicateurs de performance économique sont plus élevés que dans les entreprises qui ne font rien ou qui ne sont pas mixtes.
Ah, tu fais le lien de manière aussi claire.
Il y a maintenant des quantités d'études, McKinsey, Catalyst, etc., qui montrent ces corrélations. Alors, évidemment, ce n'est pas des relations de causalité, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, si vous mettez 3 femmes dans votre conseil d'administration,
vous allez pouf, surperformer.
Ça va surperformer de 30%. Parce que si c'était le cas, elles y seraient, les femmes, dans les conseils d'administration. Donc, le sujet, c'est que les entreprises qui commencent à se poser des questions sur le sujet de la mixité, de l'égalité entre les femmes et les hommes, sont aussi, du coup, des entreprises qui commencent à réfléchir à leur organisation, qui commencent à réfléchir à leur performance au global, qui commencent à réfléchir à, je n'ai pas envie de dire d'autres diversités, mais à d'autres sujets des inégalités et de la discrimination qui pèsent sur le moral des troupes et qui, du coup, font un mouvement général d'une entreprise qui se pose des questions et qui, du coup, avance au global.
Et alors toi, quels seraient les conseils que tu pourrais donner justement à une entreprise qui chercherait à s'améliorer et à valoriser l'égalité femmes-hommes ?
Alors aujourd'hui, ce qui est bien pour les entreprises, c'est qu'on a quand même 20 ans de recul, qu'on sait aussi un peu ce qui n'a pas marché et qu'on sait surtout qu'on est vraiment dans une dimension systémique, qu'il ne s'agit pas de faire un petit bout par-ci, un petit bout par-là, mais de prendre toutes les dimensions à bras-le-corps. C'est ce que j'appelle la panoplie d'une politique d'égalité réussie. La première dimension, c'est l'engagement de la direction. L'engagement de la direction générale, c'est la condition nécessaire. Elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire pour légitimer toutes les autres dimensions, pour légitimer que chaque personne, femme ou homme, qui ait envie d'avancer sur le sujet, puisse se dire « Ok, j'ose en parler parce que la direction générale en a parlé, et donc c'est un sujet d'entreprise. »
Oui.
Ensuite, la deuxième chose la plus importante, c'est de revoir ces process RH. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'embauche ? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la formation ? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'identification des hauts potentiels ? Qu'est-ce qui se passe au niveau des promotions ? Qu'est-ce qui se passe à tous ces niveaux-là, pour observer s'il y a des différences entre les femmes et les hommes, s'il y a des différences dans les statistiques, comprendre d'où elles viennent et les corriger. Ensuite, il y a les process de management de la même façon. Comment est-ce que les personnes sont évaluées ? Comment est-ce que les managers attribuent les primes ? Il y a aussi plein de choses qui se passent à ce niveau-là et dans lesquelles on ne se rend pas compte qu'il y a plein de sources de discrimination directes ou indirectes.
Est-ce que tu peux, par exemple, là je te coupe, excuse-moi, mais nous donner quelques exemples, si tu en as en tête, d'exemples de discrimination dans les process que tu identifies, qui sont parfois... comme tu le disais très justement, on ne se lève pas un matin en se disant « Tiens, ici, je discriminais des femmes », mais de manière plus latente et plus inconsciente, en fait.
Tout simplement, déjà, par exemple, pour les process RH, les indicateurs de formation, qui sont rarement regardés d'un point de vue sexué. Lorsqu'on se rend compte, parce que ce sont les statistiques nationales, que les femmes bénéficient deux fois moins de formation que les hommes, c'est se poser la question, pourquoi est-ce que dans mon entreprise, il y a cet écart et qu'est-ce que je fais pour rééquilibrer ? Est-ce que c'est parce que les femmes ont plus de problèmes à dégager 3 journées complètes pour aller se former, parce qu'il y a le sujet de l'équilibre de vie et de la garde des enfants ? Est-ce que c'est parce que les formations sont loin et que les femmes sont moins motorisées que les hommes, et donc qu'est-ce que je fais pour compenser le transport, etc. Enfin, voilà, dès qu'on se met à regarder des indicateurs, on voit des différences, on se pose des questions. Pour les process de management, par exemple dans l'évaluation des managers, on peut mettre des notions d'ambition. Est-ce que la personne présente des compétences alors, ce n'est pas une compétence, l'ambition, mais souvent des velléités, ou des compétences de leadership.
Oui.
Et le leadership, souvent, c'est attendu comme exprime de l'ambition. Sauf que les femmes, rarement, expriment leur ambition en allant demander à leur chef en permanence ou leur manager, dis donc, mon poste d'après, il est où ?
Oui.
Voilà. Et si on ne se pose pas la question, comment on évalue l'ambition et le leadership dans l'entreprise, on passe à côté de ce que les femmes peuvent exprimer et on fait de la discrimination indirecte.
C'est vrai que l'image de l'ambition féminine, ce n'est pas une image très positive qui est renvoyée, il faut pas se mentir. On le voit souvent comme quelque chose qui s'exerce au détriment des autres.
C'est très ambigu, parce que quand on dit d'une femme qu'elle est ambitieuse, ce n'est pas souvent entendu comme quelque chose de positif.
Ouais.
Alors qu'un homme ambitieux, c'est ce qu'on attend. Du charisme, du sens stratégique.
Mmh.
Tout ça est évidemment caricatural. Il ne faut pas non plus dire que tout le monde pense comme ci, tout le monde pense comme ça. Mais voilà, c'est des généralités qu'on observe et donc dont il faut en prendre conscience pour pouvoir s'en échapper.
Et alors, j'ai en tête cette étude en 2018, les résultats de l'étude PWN, Ambition professionnelle, regard croisé, femmes-hommes, et il en ressortait que les femmes aujourd'hui avaient autant d'ambition professionnelle que les hommes. Est-ce qu'on peut se dire que les choses sont en train de changer ? Qu'est-ce qui est en train de changer selon toi ?
En fait, dans cette enquête, justement, on a montré que les femmes ont autant d'ambition que les hommes. En revanche, cette ambition n'est pas perçue de la même façon. Et surtout, la majorité des personnes pensent que les femmes n'ont pas assez d'ambition et que les hommes, de l'autre côté, auraient trop d'ambition. Donc, le sujet, c'est de se libérer pour pouvoir vraiment l'exprimer à sa façon, tranquillement, surtout pour les femmes, sans se dire qu'il y aurait un modèle masculin qu'il faudrait absolument copier. Ça, c'est vraiment très important. Maintenant, oui, on sent quand même qu'au global, des choses avancent, sinon, ça serait un peu triste quoi, de se dire que ça n'avance pas, mais pas suffisamment vite quand même, de notre point de vue.
Et alors, il y a une autre chose qui vient souvent quand on parle de l'évolution de carrière des femmes, c'est le fait qu'il y a ce, je ne sais pas si on peut parler de cliché, qui vient souvent selon lesquels les femmes ont du mal à parler d'argent, d'évolution de carrière. Est-ce que toi, une sorte de prisme en fait, culturel en matière de négociation de salaire, est-ce que c'est quelque chose que tu perçois et qui fait qu'elles ont aujourd'hui des rémunérations inférieures à celles perçues par leurs homologues masculins ?
Alors, je suis aussi autrice d'un film sur les femmes et l'argent qui, m'a fait... En fait, c'est voilà, parce qu'on a étudié le sujet qu'on a abouti en se disant on a découvert tellement de choses qu'il faut qu'on en fasse un film. La première chose, oui, c'est vrai qu'on a constaté, c'est que, tout simplement, les femmes ne demandent pas de progression de carrière, ne demandent pas le poste d'après et ne parlent pas d'argent au moment d'une promotion, ne parlent pas d'argent au moment de l'embauche. Et on a des études qui montrent que au premier salaire, au premier embauche, 2/3 des jeunes gens parlent d'argent, alors que 2/3 des jeunes femmes n'en parlent pas. Et donc, c'est notre rôle, tout simplement, de dire que c'est attendu dans les entreprises. Et c'est ça qui est fou, parce que les personnes RH...
Oui, de légitimer la demande, en fait.
De légitimer la demande, parce qu'en plus, les personnes des ressources humaines, lorsque je fais des ateliers et qui sont là, me disent, enfin, témoignent en disant, mais oui, c'est dingue. On voit des femmes en entretien, on leur propose un poste, et elles ne nous posent pas la question de l'argent. Et en tant que manager, on peut même se dire, mais est-ce qu'elle a vraiment de l'ambition ? Je lui propose un poste. D'abord, la première chose qu'elle dit souvent, c'est « Est-ce que tu es sûr que j'ai les compétences ?» Donc ça, c'est le sujet du doute.
De l'assurance.
Du manque d'audace, du manque de légitimité perçue, de sa propre légitimité, en fait, à avancer. Et puis souvent, elles disent aussi « Attends, il faut que j'en parle à mon conjoint, mon partenaire de vie. » Donc là, en tant que manager, on peut se dire « Mais attends, je suis en train de lui proposer un poste où elle va encadrer des équipes et elle ne peut même pas me répondre sans demander l'autorisation à son conjoint. » Alors qu'en fait, une dame qui dit « Je vais en parler à mon conjoint », elle ne dit pas « Je vais demander l'autorisation », elle dit juste « Il va falloir que je m'organise et que j'en parle. » Donc, si on ne fait pas le boulot, d'un côté, d'accompagner les femmes pour leur décoder tout ça, et de l'autre côté, d'accompagner les managers pour leur dire « Ce que vous entendez comme du silence n'est pas du silence, mais est souvent de l'autolimitation ou alors des sujets
limitantes.
D'organisation.
Oui.
Voilà. Et c'est en ce sens que je disais, il faut s'occuper de l'égalité par tous les moyens, les process RH, les process de management, et aussi la formation des managers, et aussi l'empouvoirment des femmes, et aussi sensibiliser tout le monde au sujet des stéréotypes de sexe qui nous font adopter des comportements discriminatoires sans qu'on s'en rende compte, et aussi aborder aussi le sujet du sexisme en entreprise. Voilà, donc on a une panoplie. Et puis au bout du bout du bout, quand même aussi la question des équilibres de temps de vie, mais que je mets maintenant à la fin, parce que cette partie technique, finalement, c'est presque la plus facile à organiser aujourd'hui.
Et alors, on parlait beaucoup de formation des managers, notamment. Est-ce que tu relèves que les équipes qui sont majoritairement managées par des hommes, tu perçois davantage d'inégalités, ou alors on ne peut pas du tout s'en tenir à ce genre de résumé? Et est-ce qu'à l'inverse, je ne sais pas, est-ce que tu relèves que les équipes qui sont managées par des hommes sont peut-être plus mixtes ou plus égalitaires?
C'est contre-intuitif. Non, c'est complètement décorrélé, parce que on pourrait imaginer que dans les univers banque, assurance, qui sont très féminisés, le sujet de la mixité, de l'égalité devrait avancer plus vite, ce qui n'est pas forcément le cas. Voilà, on est porteur et porteuse de stéréotypes de sexe, et en tant que manager,
il nous appartient de les combattre.
Voilà, il nous appartient de les combattre, et puis sans s'en rendre compte, on est discriminant ou discriminant. En revanche, il est probable que, en tant que femme, lorsque On s'est pris quelques portes, on a dû traverser quelques plafonds de verre en se rendant compte que finalement les choses sont pas si simples. On a peut-être quand même une sensation d'alerte et on a peut-être envie de se dire par sororité qu'on va peut-être faciliter le chemin pour les suivantes.
D'accord. Et alors tout à l'heure, tu as brièvement commencé à parler de l'index égalité en disant que les rankings en fait influent sur le comportement des entreprises. C'est le dernier dispositif donc qui est sorti. Est-ce que ce type d'initiative donc a un sens pour toi? Je suppose que oui, puisque tu parlais quand même de des chiffres comme moteur de la connexion qu'il pouvait y avoir entre certaines entreprises et ton cabinet de conseil. Voilà, c'est un dispositif qui repose un petit peu sur le name and shame. Est-ce que tu peux nous en parler et nous donner ton avis?
Alors, c'est intéressant parce que cet indicateur est apparu, il n'est pas parfait, mais de toute façon, il fallait le prendre. Il n'est pas parfait au sens où il n'intègre qu'une partie des indicateurs des inégalités, mais il fallait s'en saisir parce que pour la première fois, on avait l'opportunité d'avoir un point commun entre toutes les entreprises. Et ce sujet du name and shame, on est rarement dans le shame, c'est assez souvent de l'auto-shame, comme je disais, c'est-à-dire que les personnes qui sont en queue de classement ou les entreprises qui sont en queue de classement n'ont pas tellement envie d'y rester. Alors, certaines d'entre elles y restent. Il faut savoir qu'il y a des entreprises qui préfèrent encore payer 1% de la masse salariale,
qui est donc
ou en tout cas prendre le risque qui est la sanction, plutôt que de s'engager dans un plan égalité, ce qui est quand même fou, parce que ce qu'on demande, ce n'est même pas d'être à l'égalité, à la parité, tout ce qu'on veut, c'est juste de dire qu'on va s'engager dans un plan de mixité égalité. C'est quand même pas un effort colossal, et il y a encore des entreprises qui...
De façon très assumée, finalement.
Voilà. Ouais. Ne s'engage pas. Voilà. Ouais, ne s'engage pas. Bon, celle-là, à la limite, bah, écoutez, moi, j'aime bien voir les choses du point de vue positif. S'il y a 20-30% des entreprises qui se mettent à bouger, bah, c'est déjà ça. C'est déjà ça de gagné. Et on le voit, les choses bougent. Et ce qui est très intéressant dans l'index, c'est qu'il est suffisamment rentré maintenant, j'ai pas envie de dans les mœurs, mais dans le fait... Surtout, ce qui était très important, c'est que cet index, il est public.
Oui.
Et donc, n'importe qui, aujourd'hui, va taper le nom d'une entreprise, index égalité, les moteurs de recherche le remontent.
D'accord.
Et donc, bah, des entreprises qui sont à 76, 77, où j'ai même vu des entreprises dernièrement à un index à 66, il faut savoir qu'à partir de 75, on rentre dans la zone rouge et on doit, dans les 3 ans, rectifier pour faire remonter son index. Donc, ce qui est bien, c'est que on peut comparer les entreprises. Donc, tu parlais au début de l'importance du capital humain, l'importance de l'image de marque, employeur.
De la marque employeur.
Oui, les entreprises, là, maintenant, commencent à sentir...
Voilà, la perçoivent le caractère impératif de ce mouvement.
Voilà. Et aujourd'hui, justement, l'index est maintenant suffisamment connu et reconnu pour qu'on se dise, tiens, et si on, justement, l'enrichissait de nouveaux
avec
points...
Avec d'autres paramètres.
Voilà, ouais. Et notamment le paramètre du pourcentage de femmes dans les instances de direction. Et là, probablement, il va se passer des choses parce qu'on sait qu'il y a des entreprises qui sont à 98-99 d'index sur 100, mais dont les comités de direction n'ont
qu'une femme. Sont majoritairement masculins.
Voilà. Ouais. Voilà.
Bon, donc pour toi, tu en fais un bilan très, très positif en réalité, même si le dispositif, on l'a compris, n'est pas forcément ni parfait ni imparfait.
Tout dispositif qui nous aide est positif. Voilà, on prend, on avance, on s'en saisit et on apprend aux entreprises aussi à s'en saisir pour qu'elles avancent d'un point de vue positif. Je n'aime pas travailler avec le côté punitif de la loi. Je suis aussi autrice d'un guide pour les TPE-PME qu'on a fait avec le ministère du Travail et le ministère des Droits des Femmes, qui s'appelle « Égalité femmes-hommes, mon entreprise s'engage ». Et justement, le parti pris de ce guide, habituellement, les guides, ils démarrent par ce que dit la loi. Et là, on a fait un parti pris inverse. On a expliqué tout ce qu'on pouvait faire. On a parlé des a priori, on a parlé des facteurs clés de succès. On a créé une boîte à outils avec tout un tas de propositions qui ne sont ni qui coûtent cher, ni compliquées à mettre en place. Et de se dire, à la fin du guide, vous trouvez ce que dit la loi. Et en gros, si vous avez lu le guide, si vous avez mis en place la méthode qu'on vous propose, si vous avez mesuré vos indicateurs et si vous avez mis en place votre plan d'action, eh bien, vous répondez à ce qu'attend la loi.
D'accord, donc vous avez choisi résolument de prendre le contre-pied. Et alors là, on va arriver à la fin de l'interview. J'aimerais bien, Corinne, j'ai déjà entendu parler de trois leviers de développement de carrière qui sont extrêmement intéressants et qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger sur ces sujets-là. J'aimerais bien que tu donnes aux femmes qui nous écoutent des conseils pour s'affranchir de ce fameux plafond de verre dont on entend souvent parler.
Alors, c'est quelque chose qu'on a identifié, il y a une dizaine d'années dans les réseaux de mixité, ou même il y a 20 ans, on s'est dit, mais on ne comprend pas, on partait des écoles de commerce qui sont paritaires en étudiants depuis plus de 50 ans, et 30 ans plus tard, les femmes ne sont pas dans les postes à responsabilité, donc où sont-elles passées? Et on s'est dit, mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'est-ce qui fait que les hommes avancent dans leur carrière. Et en observant, en interviewant, en étudiant, on a identifié trois leviers du développement de carrière qui sont le mentorat, le networking et la visibilité. En gros, le mentorat, qu'est-ce que c'est? Alors, certains disent mentorat, sponsoring. C'est le fait que dans une entreprise, alors dans les entreprises créées par les hommes et pour les hommes et sans jugement de valeur, mais parce que comme ça, c'était longtemps, c'était comme ça, un manager, un leader, identifie rapidement qui va prendre sa succession. Et donc, identifie des jeunes qui lui ressemblent. Bon, oui, parce que comme l'entreprise, c'est assez consanguin à l'époque. Donc, va prendre un peu ces jeunes sous son aile. Hein, on appelle ça les poulains. Et puis, va créer un espèce d'aspirateur, d'aspiration pour leur donner les clés et les faire avancer. Si on ne sait pas que ce système-là existe, du coup, on ne se met pas en visibilité, on ne se met pas sous les radars. Donc, c'est notre rôle que de dire aux femmes, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'entreprise.
Il y a aussi de l'informel dans la progression de carrière.
Tout est dans l'informel. Tout est dans l'informel dans la progression de carrière. Et ce parti de mentorat a une part super importante. Du coup, le corollaire, c'est la visibilité. Et la visibilité, c'est tout simplement pour être vu, il faut être visible. Donc, il faut prendre la parole dans les réunions, il faut se présenter avec son prénom et son nom, il faut aller dans des colloques, faut répondre aux journalistes parce que vous avez un article, du coup, ça se voit dans votre entreprise, etc. Donc, la visibilité, elle est essentielle. C'est le deuxième levier du développement de carrière. Et puis enfin, le networking, le réseautage, c'est d'être intégré justement dans tout l'informel de son entreprise, mais aussi à l'extérieur, pour récupérer des informations, pour savoir comment ça fonctionne, pour échanger sur ces pratiques, pour aussi avoir des espaces de dire « écoute, j'y arrive pas, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu ferais ?» C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ces trois leviers sont essentiels et tant que vraiment on n'en a pas conscience, on ne sait pas les utiliser. Et particulièrement sur le networking, c'est quelque chose que les hommes font naturellement, vont ensemble à la machine à café, vont ensemble boire un pot après le boulot, vont ensemble voir des matchs, etc. Alors tout ça, c'est caricatural, ou alors vont à un concert parce qu'ils aiment la musique, etc. Et les femmes sont un peu coincées par le sujet des équilibres de temps de vie, et que tant que 80% du temps domestique et familial est porté par les femmes, il faut vite quand même rentrer à la maison pour s'en occuper, terminer sa journée. Donc du coup, on déjeune sur le pouce rapidement avec ses dossiers, du coup on ne va pas à la machine à café, du coup on n'accède pas à l'information, du coup, voilà. Ça s'apprend, c'est pas compliqué, en plus, c'est super rigolo. Donc moi,
pas seulement faire, mais aussi montrer qu'on fait.
Montrer qu'on fait, ça fait partie de la visibilité. En 2 heures d'atelier, on en parle, on échange sur les clés, et puis on avance et on change complètement le regard. Et on devient aussi actrice de
sa
ce qu'on
carrière
est en entreprise,
plutôt
que de plutôt que d'être passive et de voir les trains passer et de se dire la promotion je l'ai pas eue, mais je comprends pas machin, on lui a proposé ça, mais je comprends pas l'international, j'ai toujours eu envie et personne ne m'en parle. Voilà,
super intéressant,
les clés.
Ok,
en 2 heures
c'est plié. Ok, bon écoute, merci pour ces conseils avisés. Alors, et puis pour en terminer sur cet échange super constructif, est-ce que tu peux me dire, c'est un contexte un peu particulier pour poser cette question, mais comment tu vois le monde du travail de demain?
Alors là, je prends ma respiration parce que ce qu'on observe quand même, c'est que le confinement, le Covid, pèse beaucoup plus sur les femmes. Oui. Les femmes y payent un lourd tribut. Donc, je suis inquiète. Je ne suis pas la seule. Mais comme on ne reste jamais...
Tu es quelqu'un qui met du positif partout.
On met du positif partout. Donc, on se dit, on retrousse les manches. Oui. Et on met de la vigilance partout. Donc, en ce moment, on est en train de lancer des études partout pour montrer l'impact du télétravail différencié sur les femmes et sur les hommes. Est-ce que vous savez que là, la dernière étude montre que le télétravail fait que les gens, en moyenne, travaillent une heure de plus? Mmh. Donc certes, on économise sur le transport, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire sur la charge mentale? Le fait d'être à la maison, de devoir jongler, alors maintenant les écoles reprennent, mais quand même, il s'est passé des drôles de choses. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la visibilité, justement? Est-ce que dans des réunions visio, on ose plus facilement prendre la parole ou au contraire encore moins? Et donc, qu'est-ce qui se passe pour les femmes? Voilà, on est en train de travailler beaucoup là-dessus.
Sur l'impact du télétravail,
sur l'impact du travail à distance. Du travail à distance, sur l'impact de déséquilibre de temps de vie. Est-ce que les femmes en portent encore plus? Oui, c'est ce qu'on pense. On va commencer à mesurer tout ça. En tout cas, c'est ce qu'elles ont dit pendant le confinement. Voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau du sexisme? On voit émerger quand même... On en parle peu, mais le retour, beaucoup en parlent. On en parle et on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on en parle en off du retour quand même du management très serré, du contrôle des petits chefs. Donc, qu'est-ce qui se passe de l'attitude des petits chefs différenciés sur les femmes et sur les hommes? On a une étude, et puis j'arrêterai là-dessus, parce que sinon je vais déprimer tout le monde. Mais quand même, c'est les Anglais qui ont fait une étude qui ont montré que pendant les visios, après les visios, il y a des managers qui demandent aux femmes, est-ce que tu pourrais mettre un décolleté un peu plus aguichant? Parce que tu sais, à la vision avec les clients, ça nous aiderait. On en est là. Donc, voilà. Alors, en positif, on va se dire, des contraintes, voyons les opportunités. On va essayer de les trouver, mais vous entendez, il faut quand même que je me force un peu pour les trouver. On va essayer au minimum à ce que la nouvelle situation ne soit pas plus mauvaise pour les femmes que la situation d'avant.
Bon, en tout cas, tu croules sous les projets. Donc, merci d'avoir trouvé du temps pour échanger sur ces sujets-là qui te tiennent à cœur, je sais. Merci beaucoup, Corinne.
Merci de m'avoir donné l'opportunité d'en parler. Merci.